ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane Zohana Ivracha. Alors, je vais reprendre le sujet qu'on a traité hier. Comment éviter la routine dans le couple? Sujet important. J'ai pensé encore à deux choses très importantes. Premier point, l'investissement. On a parlé souvent déjà de cela. Plus on s'investit, plus on aime. C'est une chose qui doit continuer dans le couple. Ça veut dire, c'est vrai qu'au bout d'un moment, après quelques dizaines d'années, au moins, chassé shalom, il y a certaines routines qui s'installent et l'amour flamboyant, passionné, profond est moins là. Il y a des remèdes à cela. L'investissement, les efforts qu'on va faire, les actes d'amour nécessitant un investissement qu'on va faire envers l'autre. Les actes d'amour nécessitant un investissement qu'on va faire envers l'autre. Forcément, quand quelqu'un va faire un effort pour son conjoint, qu'il aime déjà, il va faire un acte de don de soi à l'autre, forcément ça crée chez lui un amour qui est plus grand. C'est forcé. On ne parle pas de résultat chez la femme, chez le conjoint, qui sera très grand forcément, parce que la personne en face apprécie l'acte qui a été fait. Mais rien que nous déjà qui faisons l'acte, par le fait de s'investir beaucoup, ça crée un plus grand amour. Et il y a des occasions quotidiennes de faire cela. Faire plaisir à l'autre, pour une chose qui, moi, m'embête relativement, faire un effort dans ce sens. Les occasions quotidiennes. Ça me rappelle une histoire du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il s'est remarié. Il a eu deux femmes. Et après Kippour, il y a une mitzvah de faire la soukha. Si possible, il faut la finir. Il faut commencer Motsé Kippour, en sortant de Kippour. Après le jeûne, tu manges un peu. Hop, tu sors, commence à faire la soukha. Et il faut si possible la finir le même soir. Sinon, au moins finir le lendemain. Comme ça écrit le Mishnah Berurah. Donc, M. Chafetz Chaim sort le lendemain matin pour finir la soukha qu'il a faite. Sa femme sort dans le jardin et dit « Dommage, pourquoi t'as fait là? C'est à l'ombre. Mieux, fais là du côté soleil. » Bon, on peut lui répondre « Oui, non, mais quand même, d'abord, c'est moi qui fais dans la soukha, pas toi, et puis j'habite à faire ici. » Il pipe pas un mot, rien. Il défait toute la soukha, il fait côté soleil. Après sorti, je crois que t'avais raison. Ça aurait été mieux du côté ombre.
C'était sa première femme.
C'est la première?
Non, c'est
la deuxième, c'est beaucoup plus dur.
Il est divorcé?
Non, 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 je crois que sa femme est décédée, je pense. Ah. C'est pas son genre de divorcer. Et là aussi, pipe pas un mot. T'as raison, un grand sourire. T'as pas dit, je t'avais bien dit, tu vois que. Ouais, ça se peut que t'as raison. Ok, et il démonte et refait. Bon. On raconte l'histoire, il lui fait avec le grand sourire, mais certain qu'à l'intérieur, chaque seconde pour lui, le Chafetz Chaim, chaque seconde de bitul Torah, de manque du Torah, c'était des mondes, d'accord? Il n'y a pas de rabbin, le dernier siècle, qui a autant écrit sur l'importance du bitul Torah. Donc ça prend bien 2 heures de faire une soukha, démonter et refaire. 2 heures de bitul Torah de Chafetz Chaim pour l'hésitation, entre guillemets, bébête de sa femme. Il y a un travail intérieur très grand. Si je fais maintenant un acte d'amour pour ma femme, un acte d'amour, il ne sait pas qu'il s'énerve, il se tait, il fait un sourire, mais dedans, D'accord? Non. Il fait un acte d'amour. Je ne vais pas y voir dans sa tête, mais j'imagine. Ce sont ce type d'occasions où maintenant, ça fait plaisir à ma femme. Je veux lui faire plaisir. Je l'aime et j'ai envie de lui faire plaisir.
Elle va la rester du tout le droit ou...
Alors, la halakha dit comme ça, que chaque mitzvah, que si on ne la fait pas maintenant, elle va passer, on ne pourra plus la faire. Et que si on ne la fait pas, personne d'autre pourra la faire, alors on doit arrêter de la Torah pour la faire. Qui peut faire sa soukha à la place du soleil, à l'ombre, après à l'ombre du soleil? Que lui, d'accord? Donc il n'y a pas mis tout le Torah. Mais néanmoins, dans la tête quand même, je veux dire, si elle avait accepté mon avis du premier coup, on aurait évité tous ces efforts en trop. Mais tout le Torah, c'est pas étudier la Torah, alors qu'on peut. Il est écrit que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, l'assassinat et l'idolâtrie, mais pas Bitul Torah. C'est le plus grave de tous les péchés qu'il puisse y avoir. Quelqu'un qui peut étudier et il regarde son, il joue un jeu dans son iPhone à la place. Chemisme.
Est-ce que c'est grave si, malgré le fait qu'on le fait avec le sourire, etc., qu'on fait exactement ce qu'on fait, à l'intérieur, on a quand même une petite pensée qui...
C'est clair que... non, je parle d'investissement. C'est qu'il y a une résistance chez moi que je dépasse. Si tout se fait cool, il n'y a pas d'investissement. Investissement signifie travail sur soi et don de soi. Don de soi signifie effort. Don avec effort. Effort. Je suis heureux de le faire. Maintenant, je peux le faire avec la grimace et sourire. Et je peux le faire maintenant, c'est un effort, mais je suis heureux. Il y a un effort. Ça veut dire que je dois me battre contre une certaine paresse ou certains nerfs, etc. Mais je suis heureux de le faire. Je ne suis pas heureux de le faire. C'est un don aussi. Mais ça peut amener au contraire les nerfs au bout d'un moment. Je veux dire, je le fais avec le sourire, mais franchement, il me casse les pieds. Et hier, elle m'a fait ça, elle me casse les pieds. Alors, au bout d'un moment, j'en ai 10 000 casse les pieds. D'accord ? Il faut arriver à dépasser elle me casse les pieds. Et le faire, maintenant, je le fais avec amour. Transformer l'effort qu'on fait de toute façon, le transformer en don. Et c'est très beau. C'est très grand.
Et ça vient avec le temps. Ça vient avec le fait que je l'ai fait avec le sourire, mais j'étais vraiment... ça me dérangeait. Jusqu'à un jour, ou alors ça ne me dérangera plus. Mais je ne peux pas passer du... je le fais avec le sourire, ça ne me dérange pas.
Tout dépend de l'effort.
Ouais, tout dépend de l'effort.
Maintenant, admettons qu'au début c'est difficile. Moi je pense qu'après qu'on l'ait fait, travailler maintenant dans la pensée, dire « Ok, ça m'a embêté, mais après tout j'ai fait quelque chose de génial, je suis heureux que j'ai réussi. » Tu peux après positiver. Ça veut que dans l'effort, c'est dur. Mais une fois que c'est passé l'effort, maintenant tu as fait et tu as réussi, je suis heureux d'avoir réussi à vaincre ma paresse, mes nerfs, mon égoïsme, d'accord, etc., pour faire ce don. Et là, donc, tu positives dans ta tête. Donc, la prochaine fois que ça vient, déjà, tu seras, c'est quand même la dernière fois. Au début, c'est embêtant, mais après, ça devient. Il faut que je vous dise, tout ce que je dis maintenant est valable et est applicable dans le service de Dieu. Absolument tout. C'est exactement la même chose.
C'est pas un don pour elle, alors, c'est un don pour moi.
Non. Donc pour elle, tu le fais par amour pour elle. Oui, pourquoi un don pour toi?
Parce que après, je vais être content de moi. Enfin, ça va me satisfaire.
On peut être content qu'on a fait un don à son prochain. Tu le fais pas. Quelle est la motivation? Parce que tu fais. Quelqu'un une fois m'a dit, ça n'existe pas le Shem Shamayim. Ça n'existe pas de faire un acte par amour pour Dieu. Parce que forcément après, j'aurai du plaisir, donc je fais pour le plaisir. Non. Il y a une nuance. Ça c'est le piège. À l'époque, je n'ai pas su quoi lui répondre. C'était il y a longtemps, mais bon, Rachel, bon, après, j'ai réfléchi. Il y a un piège, il y a une confusion. Il y a la motivation, pourquoi je le fais. Rien à voir avec après ce qui se passe. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je suis amoureux de Dieu, je suis amoureux de ma femme. Je le fais parce que pour elle, ça lui fait plaisir. Donc, je suis heureux de le faire? Oui, je suis heureux de le faire. Pourquoi je suis heureux de le faire? J'aime donner à ma femme. Maintenant, elle me fait un grand sourire. Après, moi-même aussi, je me dis, ah, bah, oh, Rachel, j'ai fait un acte qui est bien. Ça, c'est un feedback, ça vient après. Ça n'a pas été la motivation. Ça vient après, mais quand je dis, pourquoi je vais faire ça maintenant? Comme ça, je serai heureux après de l'avoir fait? C'est pour ça que je le fais?
Non,
je le fais parce que je veux faire plaisir à ma femme. Il ne faut pas mêler les plaisirs procurés par l'acte après que l'acte a été fait, les conséquences positives de l'acte, qui sont, ma femme est heureuse, me fait un sourire, je suis content, je suis content de moi-même, je suis content. Et la motivation n'est pas je veux voir ma femme sourire ou je veux maintenant être content de moi. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Il y aura peut-être un peu de ça. Mais la motivation, elle est j'aime ma femme, je veux lui faire plaisir. Pourquoi je veux lui faire plaisir? J'aime. J'ai envie de lui faire plaisir. Pas confondre les deux.
Et Rav Dessler a dit qu'il faut donner pour pouvoir aimer.
Oui.
Donc est-ce que je peux dire que je veux pas lui faire plaisir, je veux essayer de l'aimer.
Tu l'aimes pas du tout?
Ben, je l'aime pas du tout, mais je veux l'aimer comme Rav Dessler me demande de l'aimer.
Oui.
Donc,
ouais, très bien.
Je veux l'aimer à un certain...
Très bien, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Mon cours est exactement ce que le Rav Dessler, ce que je suis en train de dire, c'est la même chose. On parlait maintenant comment ne pas tomber dans la routine, c'est-à-dire comment augmenter l'amour. Je veux faire un acte d'investissement de moi-même, nécessitant un effort, donc donner de moi-même pour l'autre. Ça amène de l'amour. La motivation n'est pas j'aurai plus de points dans l'Olam Haba. Pas demain, ma femme, elle me laissera vivre tranquille, elle va faire mes je serai aux petits oignons, elle va s'occuper de moi comme il faut. Non, c'est pas la motivation. J'ai envie de donner pour l'aimer, je l'aime, je vais le faire pour elle. Voilà, on va dire comme ça. Pour l'aimer, ok, peut-être en théorie, mais c'est mieux de sentir l'amour. Je l'aime, donc je fais. Et voilà, ça fait plaisir de lui faire plaisir. Ken.
On dit qu'il faut connaître pour aimer, mais quand on rencontre sa femme avant le mariage, on n'est pas censé la connaître.
Oui. J'expliquais hier que la première période qui varie entre 6 mois et 2 ans du mariage, on est amoureux. C'est le chen.
D'accord, mais s'il y a vraiment un problème de caractère qui n'est pas apparent au début et qui saute aux yeux, c'est pas évident comment ça se passe.
Au début ?
Ça ne va pas passer.
Non, après pré-mariage.
Pré-mariage.
On fait un
chidour
et après.
On se rend compte qu'il y a quelque chose qui. C'est pas possible.
Ouais.
Chez moi, par exemple. Et elle n'accepte pas et tous les jours, je vois sur sa tête que c'est.
Oui, d'accord. Donc quelqu'un dévoile que lui, il a un sale trait de caractère, super dur. Alors, quelle est ta question ? Comment faire pour que ça passe ?
Comment faire pour anticiper ça ?
Pour anticiper ça ?
Et puis, accepter.
Il faut travailler maintenant. Essayer d'être le plus parfait au niveau de nos midotes. Et il y a beaucoup de travail. Et quand ça ira pas, après, dire à ta femme, eh ben, écoute, je me rends compte que j'ai ce problème-là. J'en suis tout à fait conscient. Je travaille là-dessus. Maintenant, tu comprends, c'est changer de nature, c'est pas facile, ça prend du temps. Mais sache que je suis conscient et je fais des efforts dans ce sens. Déjà, ça va la calmer. Je vais l'expliquer, c'est comme l'éducation. L'éducation, c'est quoi l'éducation ? C'est répéter 1000 fois la même chose. Combien de fois une mère répète la même chose à son enfant ? 1000, 2000, 3000, 5000 fois, 10000 fois. Au bout, à la fin, il comprend. Chaque fois, on a gagné un millimètre de milligramme. Ok, 5000 millimètres de milligramme, ça fait déjà. Quelque chose, d'accord ? Donc, il faut qu'elle comprenne que l'autre patient, t'as compris, tu l'excuses à chaque fois, tu dis pas, c'est la dernière fois. Je fais des efforts, sache, je n'oublie pas, je fais du moussard, on travaille, on parle de cela. Bon, parler avec elle de cela aussi. Au bout d'un moment, plus on parle, c'est quoi le moussard ? C'est raviver notre conscience de choses qu'on sait. Mais on les sait, on ne fait pas attention parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient de cela. On sait qu'on a ce problème, on n'est pas conscient. Quand on parle d'un sujet, on en devient conscient. Si maintenant je vais parler pendant une demi-heure de la gravité de parler à Shonara, bah pendant quelques minutes après ce chiour-là, vous ferez attention de ne pas parler à Shonara. Toutes choses que j'aurais dit, peut-être que vous le connaissez toutes. Le fait d'en parler, ça ravive la conscience. Donc quand tu as un problème, t'en parles. Le fait aussi que tu en parles à ta femme, elle voit que tu partages avec elle tes efforts, ta guerre, ton combat, donc elle devient associée à toi dans ce combat-là. Après une fois que tu feras une erreur, elle va sourire. Ah, tu attaques, tu es retombé, sourire. Alors que si tu ne dois pas partager, là, encore une fois, d'accord.
Mais je pensais qu'il ne fallait pas dire. Ça, on vous dit aussi, ne pas trop dire ses craintes, vos craintes à sa femme.
Non, mais elle voit que tu as un problème. Pas des craintes, il ne faut pas non plus. Effectivement, ce n'est pas toujours bien de raconter toutes ses craintes à sa femme et vice-versa, elle à son mari. Maintenant, il y a un problème. Si elle voit que toi, tu n'en as rien à faire, elle te dit chaque fois, ça me dérange, et tu dis, oui, bon, ok, et la vie continue, elle va être frustrée, elle va être embêtée, elle va penser que tu ne fais pas attention à elle, dis-lui, écoute, je fais attention, je travaille là-dessus, et j'aimerais même t'en parler, voilà, qu'est-ce que tu penses, voilà, de ça. Donc, elle voit que tu reconnais que tu as un problème, que tu prends ça à cœur, que tu y réfléchis, vous en parlez ensemble, devenez associés pour régler le problème, il n'y a rien de meilleur.
À force de faire des efforts comme ça avec sa femme et toujours travailler, est-ce que ça ne peut pas nous éloigner justement de l'amour envers Hachem ?
Non, Hachem il adore ça. Il n'y a rien que Hachem aime plus que l'amour entre l'homme et la femme. Et ce travail que tu feras d'amour avec, comme j'ai dit en deux mots auparavant, tout ce que tu fais maintenant comme habitude que tu prends, des bonnes habitudes de travail sur toi-même pour ta femme, tu procèdes après adapter ça à Hachem. C'est exactement la même chose. L'amour d'Hachem provient de l'investissement qu'on va faire par amour d'Hachem, pour Hachem. C'est le premier point. Deuxième point dont je voulais aussi beaucoup parler, c'est un point essentiel, hélas très très inconnu, très très rare, car nous venons de la société de consommation occidentale, qui est donne-moi, 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 profitons, 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 kiffons, kiffons, kiffons. On oublie la reconnaissance. Tout m'est dû et je dois rien. La reconnaissance est une mida, un trait de caractère super important. Si je vois les efforts quotidiens que fait mon conjoint pour moi, forcément, je deviens amoureux de lui. J'ai très grande reconnaissance. On n'aime pas reconnaître le bien qu'on nous fait. Une fois, quelqu'un est venu près du Khatam Sofer, le grand sage d'Israël, il y a 250 ans, 200 ans, et il a insulté terriblement. Khatam Sofer a réagi. Je ne me souviens pas quel service je lui ai rendu. Un type qui était à côté de lui n'a pas compris. Ah oui, pour quelqu'un me haïsse comme ça, j'ai dû lui rendre un service une fois, un grand service, et maintenant, il me hait. Ça veut dire quoi? En hébreu, on dit à quelqu'un, pour dire que je suis extrêmement reconnaissant, ani asir toda. Je suis prisonnier de ma reconnaissance. Asir, c'est une prisonnier en hébreu moderne, d'accord? Asir toda. Dans le langage parlé, je suis plein de reconnaissance pour toi, je suis prisonnier. Autre parole des grands d'Israël qui vont dans ce sens, le Grise, le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, a dit le prix le moins cher qu'on peut payer pour un service rendu, c'est de l'argent. Quelqu'un, il prend en voiture jusqu'en ville. Maintenant, tu es redevable. Alors tu peux dire que je vous paye. Ah non, surtout pas. Pourquoi surtout pas? Parce que le type maintenant, il sait très bien qu'il t'a pris en voiture, tu lui dois quelque chose. Si tu payes avec de l'argent, tu ne lui dois plus rien. Et la dette qu'on a pour un service rendu, elle est beaucoup plus grande que l'argent que je lui paye, beaucoup plus grande. Pour les gens qui savent reconnaître la bonté qu'on nous a fait. Un grand Israël sait combien on doit être reconnaissant pour un service qu'on nous a rendu. Quelqu'un m'a rendu service, je suis reconnaissant. Ad vita aeternam. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile des fois de donner l'argent. Comme ça, je ne lui dois plus rien. On aime recevoir des cadeaux. Chazal dit, sonem atantirie, celui qui a la haine des cadeaux, il vivra. Quelqu'un qui aime les cadeaux, il est redevable à tout le monde. Alors c'est vrai que des fois on fait un chassé d'accepter un cadeau. L'autre doit me faire des cadeaux. On doit donner gratuitement à l'autre. Mais ce n'est pas toujours que l'autre va accepter de recevoir. Des fois, il fait le mitzvah de recevoir. Mais il sait que par cela, il devient redevable.
C'est pour ça qu'il fait le mitzvah de recevoir.
Des fois. Des fois, tu as quelqu'un, normalement, il ne veut pas recevoir, il accepte de recevoir de ta part. Un grand d'Israël, tu lui fais un cadeau, il ne veut pas. D'un autre, il reçoit. T'es jaloux, pourquoi moi il n'a pas reçu, de l'autre il a reçu. Il a reçu parce que lui, il veut faire plaisir à l'autre de recevoir le cadeau. C'est un non, pour nous, c'est de recevoir, c'est un grand cadeau, qu'un grand Israël nous permet de lui faire un cadeau. Pourquoi? Quelque part maintenant, on a une relation. Il m'est un peu redevable. Moi je lui dois beaucoup, mais lui aussi il me doit aussi un peu. Donc on est déjà en relation. Donc nos conjoints qui font tellement pour nous, il faut voir ça. Il faut travailler la reconnaissance du bien qui nous est fait. C'est une chose qui est extrêmement dure, extrêmement rare. On n'aime pas être prisonnier du bien qu'on nous a fait. Je ne peux pas maintenant avec ma femme lui payer pour tout ce qu'elle m'a fait. L'argent, donc je suis redevable. Redevable de quoi? Au moins de voir. Au moins de voir. C'est une gara très connue, Rabbi Chia. Rabbi Chia était un grand, grand, grand sadique du peuple d'Israël. Le Talmud témoigne qu'il avait une femme méchante. Je ne sais pas si ça existe une femme méchante aujourd'hui. D'habitude, c'est que le mari ne sait pas la satisfaire comme il faut bien, etc. Mais le Talmud dit qu'il avait une femme méchante. C'était vraiment une femme méchante. Le Talmud, d'accord, il sait ce qu'il dit. Une femme méchante. Elle me raconte que chaque fois que Rabbi Chia allait dans le marché, il voyait quelque chose comme ça de sympa, il achetait, l'emballait très joli, comme pour donner un cadeau à sa femme. Pas parce qu'il a fait un cours de Shambhai et qu'il voulait un peu la calmer. Par amour pour elle. Alors, un élève lui a dit, Claude Arabe, on sait très bien ce qu'il vaut de femme. Pourquoi vous faites des cadeaux comme ça? Il a répondu, je suis reconnaissant. Elle me sauve du péché, elle éduque mes enfants. Sauve du péché, c'est-à-dire que sans femme, j'ai des besoins physiques, je regarderai d'autres femmes. Elle éduque mes enfants. Sans elle, mes enfants ne seraient pas éduqués.
Une femme méchante, elle éduque les enfants.
Elle est éduque, elle n'aime pas son mari, mais elle est gentille avec ses enfants.
Puis vous avez dit que quand on a quand on a une femme méchante, il écrit que...
On va pas en enfer.
Voilà.
C'est juste.
Donc il peut être reconnaissant pour ça.
C'est pas ce qu'il a dit. Il peut être reconnaissant pour ça, mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Alors, le Rav Chaim Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Mir, il écrit dans Sirat Moussar, il dit, regardez, ces deux points-là. La femme, est-ce qu'elle a fait ça? Qu'elle sauve du péché, elle vit ses enfants, elle le fait pour lui? Pas du tout. Elle sauve du péché, en est par le fait qu'elle est femme. Donc forcément, il y a tendance à des relations, bon, elle ne fait pas ça pour lui. D'accord? Les enfants, c'est ses propres enfants à elle aussi. Que lui soit là ou pas, elle va, de toute façon, elle va les éduquer la même chose. Bien qu'elle fasse deux actes, pas pour lui, mais qu'il en profite de façon détournée, déjà il dit « je suis plein de reconnaissance pour elle ». Elle me hait, elle me fait des sales coups sans cesse, mais je suis plein de reconnaissance parce que grâce à elle, je ne pêche pas, elle éduque mes enfants. Elle ne le fait pas pour moi, elle le fait pour elle-même. C'est un niveau, ça. C'est un niveau.
C'est horrible de rentrer à la maison tous les soirs et d'avoir une femme
rôle. C'est Rabbi Chia. Je te souhaite pas ça. On n'est pas un millimètre de Rabbi Chia, d'accord? Rabbi Chia, c'est qui Rabbi Chia? Donc tout bon, vous avez étudié ça, non? Rabbi, c'est un des trois hommes de l'histoire qui appelait Kadosh. Rabbi Kadosh. Il a écrit la Mishnah, c'est le Gilgul de Yaakov Avinu. Et il témoigne que Rabbi Chaya était plus grand que lui. Elo Hanavi a dévoilé. C'était Rabbi. Rabbi étudiait avec Elo Hanavi. Et un jour, il arrive en retard. Au rendez-vous. Pas Rabbi, Elo Hanavi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, c'est parce que j'arrive, je dois réveiller Abraham, il doit faire sa prière. Après, je vais réveiller Yitzhak, il fait sa prière. Après, je réveille Yaakov, il fait sa prière. Elo Hanavi va réveiller les Avot à Hebron pour faire leur prière. Alors Rabbi lui a demandé, réveille les trois ensemble, mais qu'ils fassent leur prière ensemble, comme ça tu gagnes le temps de chaque prière, c'est beaucoup plus simple. Et tu arrives alors au rendez-vous. Il dit, si les trois prient ensemble, Machar revient tout de suite. Et dis-moi, il y a trois personnes dans le monde qui sont leur équivalent, que s'ils prient les trois ensemble, alors Machar revient. Il dit, oui, Rabbi Chaya et ses deux enfants. Le lendemain matin, ils vont à la synagogue, Rabbi Chaya et Rabbi habitaient dans la même ville, la même synagogue. Rabbi dit, vous trois, ensemble, vous êtes Shayar Tzibour du public, les trois ensemble. Il commence. Magan Abraham. Ata Gibor Olam Hashem. Mechayem Metim Ata. Mechayem Metim Ata. Rav Loshem Mashiv Aruach. Qui souffle le vent. Commence un vent. Boum. Tempête. Morid Hashem. La pluie qui tombe. C'est quoi la suite? Tu donnes la vie. Qui ressuscite les morts. Il y a une boule de feu qui est entrée dans la synagogue, comme ça, tourne comme ça, et tout le monde est parti en courant. Et le Hanavi, dit la Gemara, il a reçu 60 coups de bâton de feu dans le ciel d'avoir dévoilé ce secret-là à Rabbi. La Tosfot apprend que le premier Mechayem Metim qu'on dit, Ata Gibor Olam Hashem, Mechayem Metim Ata. Tu ressuscites les morts. Ce n'est pas les morts. C'est tu nous donnes la vie à nous, que sans cette vie, on serait mort. Parce que si tu es vraiment ressuscité les morts, alors déjà au début, les morts ont dû ressusciter. D'abord, il y a eu le vent, après, il y a eu la pluie, et après, hop, la boule de feu est venue pour empêcher la résurrection des morts. Donc, Rabbi Chaya était énorme. Donc, c'est pas. Toi et moi, on rentre à la maison, on a une femme. On n'a pas de femme méchante, ça n'existe pas aujourd'hui une femme méchante.
Pourquoi,
il y a des femmes incomprises, c'est tout.
Qui
continue. Mais Chaim
et Tim. Si ça devait être accepté.
Il y a 300 ans, trois grands rabbins d'Israël, grands tzadikim, le Rav Chida, le Rav De La Rosa, et un troisième dont j'oublie le nom, sont montés dans un grenier, ont commencé à faire des yichudim, des intentions kabbalistiques spéciales pour amener la Géoula. Et une voix venue du ciel leur a dit, si la Géoula vient maintenant, il n'y aura que 700 juifs pour le recevoir. Ce serait une hécatombe terrible, parce qu'il y a un tikkun à faire. Il y a un job à faire maintenant. Ce job se fait ou par le mitzvot, ou par la souffrance, ou par les deux. Maintenant, s'il n'y a pas assez de mérite de mitzvot, alors c'est une grande souffrance. Une hécatombe terrible. La chose à côté, rien. Enfin, pas grand-chose.
On n'est plus méritant qu'à l'époque.
Et on a souffert, on fait des mitzvot. On attend pendant 200-300 ans, on a fait des mitzvot. Il y a de la Torah, il y a des mitzvot, il y a des sephores, il y a de la tchouva. On est très méritant, mon cher ami. Un juif qui vient de Paris, qui était dans 49 portails de Touma, qui vient maintenant ici à Yerushalayim, il a la Torah, il ne comprend pas, il refait, c'est dur. Qui est venu voir l'autre jour? Dylan, il est là, il n'est pas là. Alors, j'arrive pas, c'est dur, c'est dur. C'est très dur, la Gemara, Dylan, voilà. C'est dur, la Gemara, c'est très dur. C'est très dur, on ne comprend rien. En araméen, sur un sujet tout à fait inintéressant. Et tiens bon. Comment c'est des mérites énormes. Bien sûr, on a mené Géoula, Bézat Hachem. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, les trois, bon, alors pour finir, ils ont été punis. Un dû mourir, un parti en galou de la Rafrida, et un, j'ai oublié qu'est-ce qu'il a eu, mourir, devenu fou, je sais pas. Enfin, les trois, ils ont chacun eu quelque chose d'assez pénible. Donc, il ne fallait pas que Géoula vienne immédiatement. C'est le bourg de Grabechia. Donc, Grabechia, il faut être reconnaissant. Et il y a un boulot énorme. Énorme. J'ai vu des grands d'Israël et j'ai vu à quel point ils mettaient un accent sur la reconnaissance du bien qui était fait. C'était extraordinaire. Alors, Rabbi Shlomo Shaoul, quand il est venu au mariage, c'est un grand d'Israël. Ah, il vient 10 minutes, un quart d'heure, si c'est un super monsieur important, allez, une demi-heure. Bon, après, il doit étudier la Torah, c'est un grand d'Israël. Une fois, on avait été à un mariage, il est parti, il est resté 3 heures. Famille inconnue. Des gens tout à fait quelconques. Il reste là-bas pendant 3 heures. Alors, Besson, une famille, comme je vois, des gens très très simples. Personne n'a compris. Il dit, la mère du marié, quand moi je suis marié, on est sorti Shabbat Ratan de la synagogue, ma femme et moi, et on devait arriver à la maison, 500 mètres, toute la route, elle a fait elle, comme ça, 500 mètres. 30 ans plus tard, il reçoit une invitation au mariage du fils de madame, de cette femme-là, et il reste 3 heures au mariage. Elle a fait comme ça 5 minutes, 3 heures et bien son mariage, 30 ans plus tard. Et encore une fois, nous on a du temps à perdre 3 heures à un mariage. Il n'y avait aucun temps à perdre, c'est une valeur énorme pour ces gens-là. Reconnaissance du bien qui est fait. À quel point tu rentres à la maison? On doit être reconnaissant. Tout ce que je dis maintenant, c'est dans les deux sens. Le mari envers sa femme, la femme envers le mari. Le Rav Shmuel Zalman Auerbach, le père de Rav Shmuel Auerbach, un des grands de la Torah actuelle, un des grands d'Israël. Il est en train de rentrer à la maison, il monte l'escalier pour rentrer chez lui à la maison. Il est avec son élève, tout coup il s'arrête. Et comme ça, il frotte un peu tout ça, c'est ça. Et là, si il est propre, tout va bien. L'élève dit tout va très bien, mais vous attendez quelqu'un? Je rentre rencontrer la Shrina, la présence divine. Qui? Quoi? Ma femme? La présence de la Shrina dans la maison, c'est la femme. Il rentre, il va rencontrer sa femme. C'est pas comme ça. C'est des gens qui savent, c'est quoi maintenant? Une relation, bon, c'est des niveaux de Kudusha. Alors, ma vie, nous, hier. Il n'est pas là, Raphaël. Il m'a dit, vous voulez parler de la paracha. On va parler des deux, et de l'amour et de la paracha. On a lu cette semaine, on va lire cette semaine, Vaïra. Les anges viennent visiter Avraham Avinu et demandent, Aïe Sarah Ishtecha, elle est où ta femme? Ils savent très bien où elle est, c'est des anges. Il répond, elle est dans la tente, sous-entendu, tsnoua, elle est pudique, elle ne veut pas se montrer, il y a des hommes, etc. Pourquoi ils ont fait ça? Rachid dit, les Chabeva al-Ba'ala. Pourquoi ils ont demandé ça? Les Chabeva al-Ba'ala. Pour que son mari l'aime plus. Ils font remarquer maintenant une qualité à son mari, qui sait très bien qu'elle est tsnoua, mais qui remarque encore une fois, ah, elle est tsnoua. Les anges font ça maintenant à Avraham Avinu. Avraham Avinu, l'amour le plus grand qu'on pourra avoir pour notre femme, le plus grand jour du mariage, d'accord, c'est nul par rapport à une seconde de l'amour d'Abraham pour Sarah. D'autant plus qu'ils ont souffert ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Abraham et Sarah n'ont pas eu d'enfants jusqu'à ce jour-là. Il a 99 ans. Il y a 99 ans qu'ils sont ensemble. Enfin, un peu moins, ils sont mariés assez jeunes. 90 ans qu'ils sont ensemble. Et tous les jours, ils prient les deux et souffrent. Quand aurons-nous un enfant? C'est là l'armée, c'est en Israël, quand on veut unir des gens, qu'est-ce qu'on fait? On fait un guibouche dans les les unités de combat spéciales, commando, machin, tout ça, on fait un guibouche. Guibouche, c'est cristallisation. On les unit ensemble. Comment on fait? On le fait 2-3 jours, des entraînements terribles. Terribles. Ça unit. La souffrance ensemble, elle unit. Quelqu'un qui a la yeshiva ici, avec quelqu'un dans la chambre, bon, alors il le connaît, on se connaît, bon. Mais s'ils ont vécu un truc très dur ensemble, il y a eu un problème grave, d'accord, tout ça, ils sont liés pour toujours. Quelqu'un, ils ont fait la guerre, d'accord, ils étaient les deux ensemble dans la même unité, les deux toujours dans les mêmes sales, durs coups de la guerre, d'accord. Ils sont unis toute leur vie ensemble, on a vécu des choses très très grandes. Alors Avinu et Sarah Imenu sont ensemble depuis déjà presque 99 ans. Quel amour! Le top du top imaginable possible. Abraham, il est chesed. C'est lui qui a mis la mida de chesed dans le monde. L'amour, donc. L'amour, c'est avec les autres, mais avec sa femme surtout. Les anges viennent, ils disent, on peut encore un peu plus. Tac. On peut arriver à des niveaux d'amour dans le couple extraordinaires. Comment? Investir, donner et reconnaître combien on est redevable. Je pense qu'avec ces conseils-là, Baruch Hashem, qui sont faciles à dire, mais pas faciles à appliquer, mais si on pense à cela et on le fait, on peut garantir, Baruch Hashem, on s'approche à beaucoup de nos ancêtres, Abraham Avinu et Sarah Imenu. Baruch Adonai, Amen.